Bonjour, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à l'écoute de votre émission C'est nécessaire la une. Émission, comme vous le savez, à caractère pédagogique sur les questions de sécurité sociale au Gabon. L'objectif étant d'informer les employeurs sur leurs droits, leurs obligations et les dispositions réglementaires, mais aussi informer les assurés et le grand public sur les droits et obligations des assurés, sans oublier toutes les autres thématiques sur la sécurité sociale. 30 minutes d'information, comme à l'accoutumée. Les 5 dernières minutes sont réservées à la question de l'auditeur. Vous pouvez appeler au 07 73 25 00, 07 73 25 00. Vos questions seront enregistrées pendant les 25 premières minutes. Aujourd'hui, avec moi, nos invités, ils sont au nombre de 3. Nous abordons le thème de la fraude. Je m'en vais d'abord présenter ces invités avec nous dans ce studio. Madame Nadège Ayouma, c'est le directeur adjoint des prestations techniques à la CNSS. Madame, bonjour.
Bonjour, monsieur Koumba.
À la suite, monsieur Alain Dila, chef de division au service contrôle employeur et précontentieux. Monsieur Ndila, bonjour.
Bonjour, monsieur Romaric.
Et puis, dans ce studio également, monsieur Romaric Youmou, c'est le chef de division juridique à la direction des affaires juridiques de la CNSS. Monsieur, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Voilà, mesdames et messieurs, le décor étant planté, nous ouvrons notre échange avec cette première question. Alors, qu'est-ce qu'on entend par fraude en milieu de la sécurité sociale, madame Ayouma, en ce qui concerne votre département? Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la fraude?
Merci, monsieur Koumba, pour cette question. Qu'est-ce qu'on entend par fraude? La fraude, déjà, il faut la définir comme étant un acte de mauvaise foi accompli en contrevenant à la loi ou au règlement et nuisant aux droits d'autrui. Cette fraude est orchestrée généralement par nos assurés. Donc, nous sommes ici pour vous parler un peu de toutes les activités et de tout ce que nous faisons par rapport à cette fraude.
Bien, d'accord. On va se tourner vers M. Ndila. À quel moment peut-on parler de fraude, peut-être dans les immatriculations, votre service?
Merci, M. Romel Koumba. Alors, au niveau donc de la direction du recouvrement et du précontentieux, ici, l'aspect de fraude, c'est plus du côté des employeurs, parce qu'il y a la différence avec les prestations techniques. Et là, madame le directeur aura le temps de le mettre en relief, où il s'agit de ce côté-là plus au niveau donc des usagers. Nous, c'est donc au niveau des employeurs qui, malheureusement, donc ne respectent pas les dispositions sociales, à savoir notamment au niveau donc des déclarations sociales, donc les DTS qui nous sont transmises, qu'il s'agit donc des déclarations trimestrielles de salaire. Mmh. C'est donc les deux documents qui retracent le nombre de travailleurs employés et les rémunérations donc versées à ces derniers. Là, on constate que ces déclarations sont erronées parce que là, donc, il y a des fraudes au niveau donc le nombre de travailleurs employés et surtout au niveau même des salaires soumis à cotisation. Donc, c'est vraiment des fraudes assez fréquentes et comme disait madame le directeur, ici c'est vraiment le travailleur qui sera lésé dans la mesure où on nous déclare des paramètres qui ne reflètent pas la réalité.
Mais quel est l'intérêt pour les employeurs de faire usage de faux?
Les intérêts, on sait que généralement une entreprise, c'est la recherche
du profit.
Une entreprise n'a pas en principe une vocation philanthropique. Donc ici c'est pour avoir moins de charges sociales, donc à ne pas contribuer comme il le faut au versement des cotisations sociales. Mais, comme je disais, là, c'est le travailleur qui sera donc lésé et l'employeur qui fait donc des profits.
Bien, nous allons revenir sur ces questions de profits. Peut-être, monsieur le juriste, monsieur Romaric Youmou, vous avez quelque chose à ajouter sur ces questions de fraude?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais, il faut, avant de me pencher sur la question de fraude, je veux me permettre quand même de présenter la direction des affaires juridiques, qui est une direction nouvellement créée depuis décembre 2010. Mmh. Oui. Donc, nous, nos missions, c'est préserver le risque juridique par la prise des assurances, la gestion contractuelle et aussi le contentieux social. Là-dedans, il y a tout ce qui est juridique qui encadre les activités de la CNSS. Parce que nous avons le code de sécurité sociale et son décret d'application. Et voilà. Tout est prévu là-dedans. Donc, la fraude en droit privé international, c'est une adaptation consciente des moyens illicites à des fins contraires à la loi.
Alors, au regard de toutes ces définitions, on voit bien que le phénomène de la fraude, qui semble être la chose la mieux partagée dans presque la totalité de l'administration, gabonaise existe bel et bien. Alors, parlez-nous un peu des cas ou des types de fraudes que vous enregistrez souvent dans vos services, Madame Ayouma.
Oui, Monsieur Kumba, dans nos services, nous enregistrons plusieurs catégories de fraudes. Il faut dire que la fraude peut être observée au niveau de toutes les branches que nous gérons, notamment la branche des prestations familiales, celle des pensions et celle des risques professionnels. Mmh. Je vais vous décliner ici par nature de prestations, par branche de prestations, quels sont les cas de fraude que nous enregistrons chaque fois. Au niveau des prestations familiales, la fraude réside au niveau des pièces d'ouverture des droits. Lorsqu'un assuré assujetti à la sécurité sociale ouvre les droits aux prestations familiales, notamment tout ce qui est allocation familiale, tout ce qui est indemnité journalière de maternité et tout ce qui est allocation de rentrée scolaire, il y a d'abord ce que nous appelons l'ouverture des droits aux prestations. L'ouverture des droits aux prestations ici amène l'assuré à déposer auprès de la CNCS une demande de prestation familiale avec des pièces à fournir qui sont des pièces exigées par la loi 675 portant code de sécurité sociale. Mais malheureusement, à travers ces pièces que nous recevons, nous constatons qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fraude. La fraude, comment arrivons-nous à la déceler? Il s'agit au niveau des pièces que nous recevons, des actes par exemple de naissance, des enfants qui malheureusement sur le plan physique n'existent pas, mais nous avons des actes de naissance qui nous sont fournis.
Alors,
par les assurés.
Ils sont justement fournis. Comment est-ce que ces usagers arrivent à avoir ces actes de naissance?
Vous savez que les actes de naissance sont délivrés par des autorités compétentes, notamment les mairies, les préfectures. En la matière, qu'est-ce que nous faisons lorsque nous recevons ces pièces d'ouverture de droit? La loi nous concède un peu cette casquette d'enquêteur. Nous avons ce volet d'enquête. Ouais. Nous devons enquêter sur tous les documents que nous recevons pour essayer de juger de l'authenticité ces pièces. À ce moment, nous nous rendons dans les mairies via nos agents enquêteurs qui se rendent et généralement, nous ne retrouvons pas des registres. Ou bien le numéro indiqué et porté sur cet acte de naissance ne figure nullement sur le registre correspondant au numéro qui nous a été indiqué. Alors, et là, généralement, c'est ce que nous considérons comme étant une fraude.
Alors finalement, on n'arrive pas à déceler les auteurs de ces actes répréhensibles. Mmh. Ça, on peut dire que c'est finalement les réseaux.
Oui, bon, je ne peux pas le dire ainsi, mais généralement, ce genre de cas, lorsque nous les recevons, nous envoyons tous ces dossiers au niveau juridique pour que la direction des affaires juridiques se charge de mener à bout le dossier jusqu'au niveau du tribunal, jusqu'au niveau du pénal. Mais l'objectif, c'est d'abord de déceler cette fraude. Toutes les fois que nous recevons et que nous jugeons une pièce douteuse, tout de suite, nous diligentons des enquêtes auprès des autorités.
Alors, on parle également des faux certificats de scolarité. L'institution a découvert près de 3000, si vous pouvez me corriger.
Oui, tout à fait. Il faut dire que cette fraude est catégorisée. Le cas des établissements scolaires, des responsables d'établissements scolaires qui établissent des faux certificats pour des enfants qui ne sont pas inscrits dans leur établissement. Et vous savez que la loi dit qu'on doit payer des prestations familiales aux enfants à condition qu'ils soient scolarisés ou bien des enfants pour lesquels les parents nous produisent des certificats médicaux. Et les enfants non scolarisés, ça dit qu'ils sont atteints des malformations, des maladies généralement et qu'ils ne peuvent pas être scolarisés. Pour ceux qui nous produisent les certificats de scolarité, ceux-là, nous sommes tenus, conformément à la loi, d'aller vérifier au niveau des établissements scolaires s'ils sont réellement scolarisés. Mais malheureusement, les résultats sont parfois désolants. À voir que nous avons beaucoup d'assurés qui font tout pour frauder, pour amener la CNSS à effectuer des dépenses, alors qu'il est vraiment difficile. Donc, ce que nous faisons, c'est qu'après les enquêtes, nous ressortons les résultats des rapports d'enquête. Et généralement, nous demandons aux responsables d'établissements scolaires de nous attester réellement de la présence ou pas. Lorsque nous allons dans les établissements scolaires et que l'enfant n'est pas là, il se pourrait aussi que l'enfant ait changé d'établissement en cours d'année scolaire. À ce moment, c'est un message que je lance. Les parents sont normalement tenus d'informer la CNSS. Parce que lorsque vous avez produit un certificat au premier trimestre de l'année et que à partir du deuxième trimestre, l'enfant se voit sa prestation coupée, c'est parce que lorsque nous menons les enquêtes a posteriori, l'enfant n'existe plus dans cet établissement. Pour ce genre de cas, généralement, nous arrivons à les régulariser. Mais pour ceux pour lesquels les parents ne se présentent pas, parce qu'eux-mêmes, ils savent quels sont les actes qu'ils ont commis nous gardons le dossier suspendu, hein, nous suspendons la prestation à titre conservatoire jusqu'à ce que la personne réagisse.
Ouais, il y a l'autre volet, hein, des gens qui meurent, il n'y a pas de déclaration de décès.
Oui, ça il faut dire que c'est un problème assez compliqué et qui est difficile à gérer. Vous savez que tout ce qui est sécurité sociale se fait à titre déclaratif. La CNSS ne peut pas imaginer qu'un assuré donné est décédé à telle date. Normalement, les parents devraient se rendre auprès de la CNSS et déclarer le décès de leur parent, de l'assuré. Donc aujourd'hui, on a des prestations qui sont ouvertes pour lesquelles nous n'avons pas l'information quant à l'existence ou la survie de cette personne-là. Et nous continuons généralement à générer les droits qui restent en attente.
Mais à un moment, on a parlé de certificat de vie. Hein. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui?
Oui, tout à fait. La loi a prévu que chaque année, tout assuré, tout bénéficiaire de pension ou de rente est tenu de déposer auprès de la CNSS un certificat. Ce certificat de vie permet de justifier de la vie de cette personne et permet de maintenir le droit à la prestation. C'est la même chose pour les veuves bénéficiaires des prestations de survivants et qui sont tenues de déposer auprès de la CNSS un certificat de non-remariage qui fait office du certificat de vie.
Absolument.
Pour elle.
Nous y reviendrons, Mme Ayuma. Monsieur Ndila, votre département n'échappe pas à la règle.
Oui, donc au niveau de la direction du recouvrement du précontentieux, nous avons aussi une particularité aussi en ce qui concerne donc les fraudes que nous constatons. Alors là aussi, il faut mettre en exergue qu'il s'agit là des risques qui sont quand même inhérents donc au système déclaratif qui est celui de la Caisse nationale de sécurité sociale. Alors, la typologie des fraudes que nous constatons donc au niveau de la direction de recouvrement du précontentieux, il s'agit notamment d'abord du non-reversement de cotisations, c'est-à-dire là, on a des employeurs qui prélèvent les cotisations sociales de leurs travailleurs, mais qui ne le reversent pas auprès donc de notre organisme de sécurité sociale. Donc là, il s'agit vraiment d'une fraude, il s'agit même d'un délit. Un délit, là, monsieur Romain, qui aura le temps de mettre en relief les dispositions à la matière.
Bien sûr.
Nous avons aussi certains employeurs, donc, pour payer des cotisations d'un trimestre donné, qui nous émettent des chèques en bois. Alors là, donc, il s'agit aussi d'un délit pénal parce que les cotisations donc, ne sont pas payées, parce que le chèque, malheureusement, il est sans provision. Nous avons aussi comme fraude que nous constatons donc au niveau de notre département, la sous-déclaration en matière du personnel, c'est-à-dire une entreprise X emploie, je donne un chiffre au hasard, 50 personnes, on va nous déclarer juste 3 personnes. Là aussi, c'est vraiment une fraude qui est assez caractéristique et qui est assez récurrente. Nous avons aussi, entre autres, la minoration de l'assiette de cotisation, donc c'est-à-dire le salaire qui est soumis à cotisation. Monsieur Makaya peut avoir un salaire de 600 000 francs, mais l'employeur va déclarer auprès d'un autre organisme 200 000 francs. Donc là aussi, il s'agit d'une fraude assez importante dans la mesure où c'est la carrière de l'assuré qui va prendre un coup. Donc voici un peu de façon schématique les différentes fraudes que nous constatons au niveau de nos départements. Mais là aussi, nous mettons en œuvre des mesures parce que au niveau donc de la direction du recrutement et du précontentieux, nous avons donc un service de contrôle employeur, donc des personnes donc qui ont pour mission d'aller vérifier la conformité et la régularité des obligations qui incombent aux employeurs. Donc aujourd'hui, c'est des fraudes que nous essayons donc de régulariser. En ce qui concerne par exemple le non-reversement de cotisations, nous dressons systématiquement un état de sens omnibus, c'est-à-dire nous notifions à l'employeur donc un document qui retrace les cotisations qu'il aurait dû payer.
On parle également des retraités étrangers qui sont affiliés au régime de la Caisse nationale de sécurité sociale qui ne meurent jamais.
Oui, M. Koumba, vous faites bien de le signaler. Vous savez que c'est un problème qui nous tient tous à cœur. Ces assurés, surtout ceux de l'Afrique de l'Ouest, qui ne meurent jamais. Il faut dire ici qu'il est difficile pour nous, hein, et c'est rare même, que nous recevions chaque année des certificats, des actes de décès signalant le décès d'un assuré. Donc, ce qui fait que ces personnes qui perçoivent les pensions les perçoivent généralement à vie, s'il faut le dire. Il faut dire que l'espérance de vie en Afrique de l'Ouest n'est pas plus élevée que celle de l'Afrique centrale. Pour ce genre de cas de fraude-là, nous avons mis en place un plan d'action. Préalablement, pour l'exécution de ce plan d'action, nous allons contacter les affaires étrangères, voir comment travailler avec les consulats, nos consulats en Afrique de l'Ouest, pour pouvoir mener à bien et mettre une équipe de la CNSS pour aller vérifier. C'est-à-dire les paiements que nous effectuons par virement, nous allons les positionner en espèces et nous irons payer sur place.
Vous savez qu'il est
la stratégie que nous sommes en train de mettre en place. Mais il faut dire que c'est pas évident parce qu'on ne sait pas qui est qui. Ils vont venir. Chacun peut venir avec la photo en se disant que c'est lui qui est le bénéficiaire. Mais je vous assure que c'est pas évident. Mais nous allons déjà prendre la tâche avec les autorités locales de nos pays frères pour nous aider à bien et si possible intégrer les autres caisses pour nous aider dans cette lourde tâche.
D'accord, il faut quand même dire que tous ces usages de faux ont tout de même un impact, hein, dans ce sens que ça grève les ressources financières. On peut évaluer ça à combien, par exemple?
Ah, il faut dire que c'est quand même...
Vous n'avez pas les chiffres, là?
Bon, pour le moment, il est difficile de le dire maintenant, mais il faut dire carrément, en termes de nombre de cas de fraude, par exemple, pour les prestations familiales, ça s'élève quand même à des millions.
Bien
à
sûr.
Des millions. C'est assez élevé. Même si c'était 20 millions, mais il faut dire quand même, c'est l'argent des assurés. Il n'est pas question que nous payons pour n'importe quoi. Voilà. Nous devons circoncis cette dépense parce que c'est l'argent des assurés. On n'a pas
sûr.
Le droit de payer...
Alors, mais du point de vue de la loi, M. Yomou, alors, quelles sont les mesures coercitives prévues?
Oui, il faut dire que le législateur a prévu, même au niveau du Code de sécurité sociale, en son article 94, je cite, « Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues, est passible des peines prévues par l'article 301 du Code pénal réprimant le délit d'escroquerie.
C'est-à-dire qu'il va être emprisonné?
Oui, il sera puni d'un emprisonnement qui peut aller de 1 an à 5 ans. Et c'est possible aussi des amendes qui vont de 50 000 à 1 million. Donc, on a eu des cas de fraude. Comme disait Mme Ayouma, ceux-là qui falsifient des documents, qui peuvent mettre leur propre photo avec le nom d'une autre personne. Vous voyez, c'est des cas de fraude qu'on décèle à notre niveau et ces personnes sont poursuivies. Donc nous travaillons de concert avec notamment la PJ, la Direction Générale des Recherches, aussi avec le tribunal. Pour des cas, des faux actes de mariage par exemple, lorsque les enquêtes sont menées, à leur niveau, ils décèlent ces cas, ils les transmettent chez nous au juridique et à partir de ce moment, nous rentrons en contact avec les autorités compétentes.
Oui, Madame Ayouma, il y a eu un cas qui a fait l'objet de beaucoup de bruit dans la presse nationale, justement.
En fait, il s'agissait d'une pension de vieillesse perçue par un usager qui n'était rien d'autre que le neveu du décujus. Son oncle étant décédé depuis pratiquement 2 ou 3 ans, n'ayant pas signalé le décès, ce bonhomme s'est arrangé à falsifier sa pièce d'identité et il a établi non seulement un récépissé avec le nom du décujus, mais il a mis sa photo et il s'est arrangé à mettre à jour sa photo au niveau de la CNSS, ce qui fait qu'on a commencé à payer au moins pendant plusieurs échéances. Mais aujourd'hui, cette personne, elle est sans famille, comme on le dit, un gros bouquet, qui a été pincé sur le champ le jour où il venait se faire payer. Et malheureusement, la famille, les enfants du décujus ont émis une opposition au paiement et nous l'avons attendu le jour où il est venu. Le premier jour de paiement, il s'est pointé. La PJ était là, l'attendait et ils l'ont amené.
On sait que pour coller à la bonne gouvernance et la culture du résultat prônée par les plus hautes autorités de la République, la CNSS vient de se doter d'outils de certification. Madame Ayouma, quels sont aujourd'hui les éléments techniques pour s'assurer de la bonne prestation à la bonne personne?
Oui, et nous avons mis déjà plusieurs outils en place, mais il faut dire qu'avant d'arriver à la certification, beaucoup de choses ont déjà été faites hein, pour nous permettre de voir plus clair. Avant, le système était manuel, mais aujourd'hui, le système est automatique, on sait qui fait quoi. Il y a une traçabilité dans tous les actes que nous commettons. Aujourd'hui, je peux effectuer un acte sur le système, on saura qui a fait cet acte. Et nous avons mis en place aussi un système d'habilitation, n'importe qui ne peut pas aller n'importe où faire n'importe quoi. Et au niveau de nos guichets, nous avons mis en place aussi au niveau du système de paiement des moyens d'identification. Ces moyens d'identification permettent à l'agent identificateur d'effectuer l'identification et de regarder réellement si c'est la photo qui s'affiche sur l'écran correspond bien à la photo de la pièce qui nous est fournie pour pouvoir remédier à ce genre d'acte-là. Le message que je lancerai ici, c'est dans le cas des personnes qui ont peut-être par hasard eu des suspensions pour tel ou tel motif, nous avons mis en place un service réclamation qui est là pour collecter toutes les informations et traiter la réclamation Voilà, donc nous invitons tous nos usagers, nos employeurs et nos assurés de se rendre auprès de la CNSS lorsqu'ils ont des problèmes, se renseigner avant d'effectuer des actes qui sont parfois
répréhensibles. Monsieur Ndila, la direction générale a mis en place une batterie de mesures de contrôle. Et quel est votre moyen de lutte et comment arrivez-vous à contrôler?
Le corps du contrôleur est un corps déjà dans l'activité énormiste, c'est-à-dire que l'activité est régie donc par les dispositions donc notamment du code de sécurité sociale et du code du travail. Alors c'est donc des personnes assermentées. La assermentation donc oblige les employeurs donc à remettre à ces personnes tous les documents comptables, fiscaux, juridiques et sociaux. Alors ce qui permet donc au contrôleur donc de faire un travail plus efficient. Comme je le disais, le système des déclaratifs voudrait que c'est l'employeur qui nous déclare les différents éléments du mouvement donc de son compte. Alors donc il revient donc pour la CNSS dans les contrôles que nous menons de vérifier de façon pratique si tous les éléments qui sont déclarés auprès de la CNSS sont conformes à la loi. Pour cette année par exemple 2012, nous avons un objectif de 1000 entreprises à contrôler. Là aussi, il faut aussi signaler que depuis belle lurette, les contrôles auprès de nos partenaires sociaux, donc auprès des employeurs, n'étaient pas de façon systématique. Or là, maintenant, ça devient une exigence légale et déjà dans le cadre de la certification dont notre périmètre aussi fait partie. Donc tout employeur aujourd'hui doit faire l'objet d'un contrôle parce que c'est le principe de l'égalité de tout cotisant devant la loi. Au-delà donc des contrôles systématiques que nous faisons, nous avons aussi des contrôles inopinés. Alors le contrôle inopiné, c'est quoi? Ça peut être par exemple à la demande du travailleur qui se sent lésé, donc là il nous envoie donc une requête. Ça peut être aussi un contrôle qui est déclenché par la hiérarchie ou par toute administration concernée. Et nous avons aussi mis en place aussi un corps des enquêteurs, donc de la brigade économique. C'est donc un corps qui sillonne un peu le territoire national en vue donc de débusquer là aussi les employeurs qui ne sont pas affiliés auprès de la CNSS, qui dit qu'ils ne sont pas affiliés à la CNSS, dit aussi que les travailleurs aussi ne le sont pas et qu'il n'y a pas aussi des déclarations au niveau des cotisations. Donc c'est un peu toute cette batterie de mesures qu'aujourd'hui la direction du recouvrement et du précontentieux exerce de façon
efficace. Est-ce qu'on peut dire que ce système il est efficace aujourd'hui?
Le système efficace aujourd'hui, on voit qu'il y a déjà un civisme hein, en matière de sécurité sociale. Hein, cela se justifie entre autres un peu par le recouvrement un peu de nos cotisations sociales qui a pris quand même une hausse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui les employeurs savent que mieux vaut déclarer de façon conforme que de faire l'objet d'un contrôle qui va se matérialiser par un redressement dont les sommes sont assez colossales. Donc là, il y a quand même un suivi.
D'accord. Alors ça, c'est sur le plan extérieur et c'est sur le plan interne?
Non. Bon, là, je pense que déjà, Monsieur Romaric aurait plutôt le temps d'aborder la question. Nous avons, par exemple, une direction audite hein, qui essaie un peu chaque année de nous faire une cartographie des risques qui peuvent survenir dans le cadre de nos activités, mais vraiment des cas de fraude au plan interne, c'est-à-dire qui concernent les collaborateurs, non, nous n'avons pas vent.
La question de l'auditeur.
La question de l'auditeur.
Voilà, madame, monsieur, comme vous venez de l'entendre, nous abordons à présent le volet de la question de l'auditeur. Si le temps qui nous est imparti ne nous permet pas de donner réponse à toutes les questions suscitées par l'émission, le reste des réponses vous seront alors, comme à l'accoutumée, données hors antenne via vos numéros de téléphone. Cela dit, nous avons ici la question de Monsieur Mabika qui appelle depuis Lambaréné. Il voudrait savoir comment faire pour savoir si son employé a déclaré ou pas. Madame Ayuma.
Monsieur Koumba, comment savoir? Bon, pour ce monsieur Mabika, il peut, à partir de nos guichets, étant donné qu'il est à l'intérieur du pays, nous avons des antennes, des agences et des délégations disséminées au niveau de
à travers
tout le pays. Mais il suffit tout simplement que cet usager se présente à nos guichets. À travers l'écran, la personne peut savoir ou pas. Il peut aussi saisir la direction du recouvrement et du précontentieux par correspondance, afin que cette direction puisse établir un état de carrière qui permet de savoir quelles sont les périodes déclarées par son employeur ou pas. Généralement, cet état de carrière permet de ressortir les périodes qui sont assurées, les périodes pour lesquelles il n'a pas cotisé. Et ça, ce sont des actes nous encourageants vis-à-vis de nos assurés, parce que ce sont eux qui sont concernés après, lors du calcul des prestations. Généralement, il y a des employés qui ne déclarent pas. Et arrivés à la retraite, ces personnes se retrouvent avec des prestations biaisées, parce que certaines périodes n'existent pas. Donc, c'est très bien que cet assuré puisse s'intéresser désormais à sa carrière pour pouvoir se prémunir un peu de toutes les
informations. Et là, nous avons une autre question de M. Victor Ibranga. Il nous appelle depuis Mwanda. Il voudrait savoir le sort qui est réservé à nos employés qui ne déclarent pas, alors qu'ils prélèvent sur leur bulletin, c'est bien écrit. Monsieur Yumou, je crois que la question s'adresse à vous.
Oui, il faut dire que ces employeurs qui ne déclarent pas, alors qu'ils prélèvent sur les employés, ils courent des sanctions prévues par le code pénal. Parce que s'ils sont décelés, toujours est-il que nous, on ne peut pas facilement les déceler, mais s'ils sont déclarés sur les DTS, à partir de ce moment, on peut les repérer. Quand ils constatent qu'ils sont prélevés par la CNSS, ils font des réclamations et c'est sur la base de ces réclamations que nous pouvons engager des poursuites.
Et nous allons poursuivre notre questionnaire. Là, nous prenons cette question de Mme Gisèle Aubian. Elle voudrait savoir si une femme qui n'est pas mariée peut-elle prétendre à la pension de survivant, Mme Aïma?
Non, pas du tout. Lorsqu'on n'est pas marié, les droits ne peuvent pas être ouverts, même lorsqu'elle est mariée à la coutume. La loi a prévu uniquement la femme mariée. Et il faut voir, tout est répété au niveau des dispositions de l'article 67 et 79 du Code de sécurité sociale. À l'intérieur de ces dispositions-là, le législateur a prévu quels sont les bénéficiaires aux prestations.
Alors, si le mari en question, c'est vrai, ils sont mariés uniquement à la coutume, si le mari en question décède, qui n'ont pas d'autres ayants droit, ça veut dire que cet argent ne revient pas
à cette veuve. Vous savez, nous sommes dans la sécurité sociale. Hein. Ceux qui font beaucoup d'enfants perçoivent les prestations pour ceux qui n'en ont pas. Donc, malheureusement, c'est ça, la sécurité sociale. Hein. Généralement, le législateur a prévu que lorsque vous n'avez pas d'ayant droit, il n'y a aucune prestation ouverte. Mais il faut dire ici qu'il y a certaines prestations qui sont ouvertes aux survivants. Dans le cas, par exemple, des risques professionnels, lorsque la personne était assurée, n'avait ni enfant ni femme, ni père ni mère, le législateur a prévu un capital décès pour les proches parents. C'est la seule branche au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale qui ouvre les droits aux collatéraux, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas directement affiliées, mais à condition que ce lien d'affiliation soit prouvé par l'assuré. Mais pour la femme qui n'est pas mariée, ses enfants, les enfants qu'elle a eus avec l'assuré, peuvent être bénéficiaires de prestations de survivants. Donc les droits sont des droits séparés, mais la mère n'aura pas sa part dans ce droit à pension.
Voilà, madame, monsieur, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Nous allons faire le tour avec nos invités. Avez-vous quelque chose que vous n'avez pas pu dire, monsieur Yomou?
Je dirais simplement que tout employé est tenu à ses droits et peut se rapprocher à tout moment de la CNSS et faire des réclamations possibles pour connaître son état.
Oui, moi, en titre de conclusion, je mettrai donc en exergue l'impact un peu financier des fraudes que nous constatons donc au niveau de la direction du recouvrement et du précontentieux. Au-delà donc du manque de recettes techniques auprès de notre organisme de sécurité sociale, parce que là, il y a vraiment un manque à gagner dans la mesure où les cotisations qui sont attendues par notre organisme ne viennent pas dans leur totalité, mais surtout aussi l'impact au niveau donc des assurés, parce que aujourd'hui les pensionnés actuels ne reçoivent pas la pension qu'ils auraient dû recevoir, parce que pendant plusieurs années, malheureusement, l'assiette des cotisations sociales n'a pas été respectée dans notre pays. Donc on a reversé vraiment à la CNSS des sommes qui étaient donc en rabais par rapport à ce qu'on aurait dû verser. Donc c'est l'occasion de rappeler donc aux uns aux autres, surtout aux travailleurs, de prendre conscience donc de leurs droits sociaux, et surtout donc de se rapprocher de notre institution pour s'assurer si réellement leurs cotisations sont effectivement versées et si leur carrière est vraiment bien suivie. Vous savez que de la même manière que nous percevons notre extrait de compte bancaire, comme disait Mme Ayuma, au niveau de la CNSS aussi et surtout au niveau de notre département, nous établissons donc un état de carrière. C'est vraiment un document important. C'est maintenant qu'il faut venir se solliciter. Il ne faut pas attendre lorsqu'on a déjà nos 55 ou nos 60 ans pour se rendre compte qu'il nous manque X nombre de périodes d'assurance et généralement, certains employeurs n'existent plus. Donc, ce qui fait que même l'action juridique que peut entreprendre l'agent ne peut plus avoir lieu puisque généralement, l'employeur n'existe plus, etc. Donc, c'est le moment, pendant qu'on est encore actif, de faire cette action.
Je vous remercie, Nsindila, Madame Ayuma. Peut-être que vous avez un dernier mot.
Non, j'attire juste l'attention de nos usagers que nos guichets sont ouverts. L'idéal, c'est de se rapprocher de la CNSS, de nos guichets, service réclamation situé à Glace, en face de la SGS, ou bien à nos guichets au niveau du siège pour avoir la meilleure information. Nous avons mis à leur disposition des dépliants qui leur permettent d'avoir toutes les informations nécessaires. Et nous avons aussi le guide pratique de l'assuré qui donne de façon détaillée des informations pour lui permettre de s'orienter, qu'est-ce qu'il doit faire lorsqu'il a tel ou tel souci.
Voilà, mesdames, messieurs, pour les questions non abordées dans ce studio, la CNSS s'engage à y répondre directement hors antenne, aux appelants, à travers leurs coordonnées techniques, laissez leur de leurs appels. Nous disons merci à nos invités, M. Alain Ndjila, chef de division contrôle et précontentieux. Nous disons merci à Mme Nadège Ayuma, directeur adjoint de prestations techniques à la CNSS. Nous disons également merci à M. Romaric Youmous. Merci à la Caisse nationale de sécurité sociale pour la volonté marquée d'être plus proche de ses clients, qui sont justement les employeurs et les travailleurs, mais également les assurés. À la technique, Didier Makaya, mise en onde Lombo Moisogo, devant ce micro, Romuald Koumba. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.
Caisse nationale de sécurité sociale, notre ambition, mieux vous servir.